Bonjour, bonjour, bonjour et bienvenue sur le podcast Ivoire Talent, votre nouveau rendez-vous hebdomadaire de formation, de partage d'expérience sur les sujets brûlants de la vie active et professionnelle. Je suis Landry et je anime ce podcast avec mon colistier Franck. Comment tu vas, Franck?
Hello Landry, hello à tous nos auditeurs. Landry, je vais excellemment bien. Et toi?
Super, moi aussi ça va, je ne me plains pas. Grâce à Dieu, je vais super bien, j'ai la santé, c'est le plus important.
Okay.
Ok, donc Franck, aujourd'hui, on a un sujet qui moi, me passionne personnellement, et puis je suppose que ça te passionne aussi. Et on a aussi un invité de taille. Donc, je te laisse le soin d'introduire notre invité de ce jour.
Pas de souci. Tu sais, c'est toujours un plaisir de te retrouver pour le podcast. Et aujourd'hui, encore plus, parce que nous allons parler d'un sujet qui, il y a quelques années de cela, semblait encore tiré des films de science-fiction. Mais aujourd'hui, le sujet est omniprésent dans notre vie quotidienne. Mmh. Et pour en parler, il fallait forcément avoir recours à un expert de ce domaine-là, parce que nous voulons comprendre aujourd'hui ce que c'est que l'intelligence artificielle. Et pour en parler, nous avons la chance et l'honneur de recevoir chez nous, sur le podcast Ivoire Talent, Monsieur Didier Cré, qui n'est plus à présenter et qui aujourd'hui exerce dans le domaine de l'intelligence artificielle en tant que manager. Didier, bienvenue dans le podcast Ivoire Talent et encore merci d'avoir accepté notre invitation.
Hello Franck, hello Landry, c'est moi qui suis heureux de participer à ce podcast.
Plaisir partagé, bienvenue encore Didier. Bon, moi, j'aimerais rapidement qu'on attaque le sujet parce que c'est un sujet qui me passionne énormément. L'intelligence artificielle. Qu'est-ce que nous devons entendre par intelligence artificielle? Donne-nous plus de détails, les détails de l'expert.
Alors, l'intelligence artificielle, en fait, c'est un concept informatique avant d'être même une discipline. C'est un concept informatique qui regroupe un ensemble de techniques. Et ces techniques-là ont une ambition, c'est reproduire des comportements intelligents. De façon grosse maille. Et dans la pratique, aujourd'hui, l'IA, ça désigne un programme ou une fonctionnalité intelligente. Par exemple, il est commun d'entendre des phrases du genre « Voici une IA qui identifie des cas de COVID à partir des enregistrements de tout. » Donc, si on veut aller un peu plus en détail, tu as des techniques qui sont utilisées en intelligence artificielle dont j'ai parlé. Donc, on a le machine learning, le deep learning, qui sont les plus populaires et les plus récentes. Et ce sont des techniques, en fait, qui représentent la branche connexionniste, on va dire ça comme ça, qui est opposée au système expert, en fait, qui est l'ancienne génération de techniques d'IA. Et les systèmes experts, eux, ils sont plus basés sur la branche symbolique, qui en gros est basé sur du raisonnement logique, des règles bien établies. Donc voilà un peu le paysage de l'IA actuel.
C'est qui est clair.
Waouh. Yep. Oh, Didier, là tu commences fort, hein, mais attends que je m'asseye bien là.
Mais non.
moi j'aimerais que tu puisses définir un peu la définition. Parce que dans ta définition tout à l'heure, dans ton propos, tu as parlé de branche connexionniste et de branche, si je ne me trompe pas, symboliste.
C'est ça.
Qu'est-ce que ça veut dire, en fait, pour qu'on puisse mieux comprendre?
Oui, désolé d'être allé peut-être un peu plus vite en besogne. En fait, au début du concept IA, il y a eu deux approches. Il y a eu des gens qui se sont dit, faire une IA, c'est bâtir des programmes qui sont logiques. C'est bâtir des programmes qui sont basés sur des règles et qui prennent des décisions logiques. C'est cela qu'on a appelé la branche symbolique. Et ça a engendré la première vague d'algorithmes et des systèmes experts, en fait. Et la branche connexionniste, eux, se sont dit, au lieu de faire des règles, au lieu d'aller sur la logique, essayons de reproduire le comportement du cerveau humain. Donc, ils sont allés sur ce qu'on appelle du raisonnement inductif, donc apprendre à partir des données, d'où le fameux learning que vous entendez souvent dans les techniques d'IA. Voilà.
Uh-huh.
D'accord, je comprends beaucoup mieux là. Merci beaucoup, Didier.
Je t'en prie. Ouais. Avec votre permission, en fait, je vais rentrer un peu plus en détail
Ok.
dans le concept même d'apprentissage. Il y a trois types d'apprentissage. Un programme apprend de trois façons. Donc, apprendre, c'est trouver des relations ou trouver des patterns à partir de données ou à partir d'informations. Donc, on peut apprendre sur des données qui sont étiquetées. Donc, le programme ou la machine apprend à partir d'exemples catégorisés. Ça, c'est l'apprentissage supervisé. On peut apprendre sur des données qui sont non catégorisées, c'est-à-dire que ça peut être des données brutes, sans étiquette. Et la machine, en fait, est censée trouver des relations de similarité, donc organiser les données sans étiquette préalable. Et puis, il y a l'apprentissage par renforcement qui, en fait, consiste à apprendre à un agent à interagir avec son environnement. Voilà. En gros, c'est un peu ça les gros points de l'IA actuelle.
Ça, c'est une lecture. C'est
Wow.
un cours magistral. Mais d'accord, j'ai cru entendre dans ta définition de l'IA qu'il y
Oui.
avait ce que tu appelais machine learning et aussi deep
Exact.
learning. Est-ce que tu peux nous donner
Exactement.
une définition un peu plus poussée d'abord de machine learning et ensuite du deep learning?
OK, parfait. Donc, le machine learning, c'est une branche de l'IA, comme j'ai dit, qui regroupe des algorithmes spéciaux. On va dire des algorithmes spéciaux comme ça. Spéciaux dans le sens où ces algorithmes génèrent automatiquement des modèles à partir de données. Donc, en pratique, un algorithme de machine learning apprend à partir des données, contrairement à un algorithme traditionnel qui suit des règles de façon invariante. Voilà. Donc, je te donne un exemple là. On prend un système de détection de fraude. Donc, pour ce système-là, on décide de retenir trois caractéristiques du fraudeur type à détecter. Donc, une première approche, c'est l'approche que j'appelle l'approche naturelle, l'approche des algorithmes classiques. Ça serait de dire, si le candidat est un nouveau client, s'il a fait une grosse transaction, s'il a fermé son compte, alors je le considère comme un fraudeur. Ça, c'est les moteurs de règles en général. Donc, ce sont les algorithmes traditionnels qui ne vont pas bouger. Donc, dès que le fraudeur, par exemple, change de stratégie, ton modèle, voilà, il ne marche plus parce que, voilà, il est habitué à dire que le fraudeur égale un nouveau client, une grosse transaction et une fermeture de compte. Voilà. Contrairement à la deuxième approche du machine learning, qui va plutôt regarder des données historiques de fraudeurs sur ces trois mêmes caractéristiques. Donc les caractéristiques, je cite, hein, c'est l'ancienneté, le montant des transactions et l'état du compte. Donc l'approche de machine learning va regrouper des fraudeurs et regarder sur ces trois caractéristiques-là pour apprendre à déterminer qui est candidat, enfin, quel est le candidat, quel est le fraudeur type. Voilà. Et grâce à cet historique-là, justement, l'algorithme de machine learning pourra mieux identifier ces profils suspects ou des nouveaux cas parce que les valeurs sont pas fixes et sont pas figées de façon explicite. L'algorithme de machine learning aura appris des données à fixer les bons seuils. Voilà, en gros. Donc, c'est un peu ça le machine learning, c'est apprendre à partir des données. Voilà.
Super. Donc, si je comprends bien, un cas spécifique de machine learning, c'est par exemple lorsque je suis sur Facebook et que dans mon navigateur Google, je suis parti peut-être regarder des informations sur une Jordan, c'est-à-dire une chaussure, une paire de
C'est
chaussures, et
ça?
qu'ensuite je reviens sur Facebook, je
Oui.
retrouve des publications et des publicités de chaussures, de magasins où on vend des Jordan.
Exactement, exactement. C'est que ton historique de navigation justement sera collecté. Donc on saura que tu allais regarder une Jordan. Et l'algorithme de Facebook va se dire, tiens, tiens, Et si je lui proposais déjà des Jordan sur sa page Facebook sans qu'il ait à se déplacer? Donc, j'utilise ton historique pour suggérer des choses qui pourraient t'intéresser.
Super. Donc, okay. Ça, c'est pour le machine learning maintenant. Oui. Ensuite, pour le deep learning.
Alors, le deep learning, c'est une sous-catégorie d'algorithmes de machine learning. Mm-hmm. Donc, ces algorithmes-là sont basés sur ce qu'on appelle des réseaux de neurones. Donc, pour faire simple, un neurone, c'est une unité de calcul. Donc, c'est quoi la différence avec le machine learning? C'est que, souvenez-vous, l'exemple que j'ai donné, on a fixé nous-mêmes les caractéristiques du fraudeur. Dans le deep learning, le système apprend de lui-même quelles caractéristiques choisir. C'est-à-dire qu'au lieu de choisir, par exemple, l'ancienneté, le montant des transactions, il peut choisir une combinaison des deux. Alors que dans le machine learning, il faudrait faire de façon explicite le choix des caractéristiques à étudier. Le deep learning, en général, il prend une masse de données et puis il détermine lui-même les caractéristiques qui sont pertinentes pour le modèle qu'on veut faire. Donc, c'est un peu ça la différence avec le machine learning.
Ça devient intéressant. Justement, parce que tout à l'heure, tu avais évoqué qu'on avait tendance ou bien qu'on essayait de faire apprendre la machine un peu comme le cerveau humain.
C'est
et
ça.
Plus tard, tu as parlé de neurones.
Exact.
Bon, là, je me suis un peu posé la question, est-ce à dire que celui qui fait l'intelligence artificielle aujourd'hui, c'est quelqu'un qui apprend d'abord à connaître le cerveau humain? Donc, c'est quelqu'un qui a un profil plutôt de la médecine ou bien alors tout simplement, quel est ce mode d'apprentissage du cerveau humain là qu'on arrive à reproduire dans les machines? Parce que c'est un peu difficile de comprendre. On veut faire en sorte qu'une machine apprenne comme un cerveau humain. Mm-hmm. Comment est-ce que ça se passe en fait concrètement?
Ok, donc ce que tu as dit, le fait d'apprendre comme un cerveau humain, c'est si tu veux le grand objectif. Dans les faits, on est encore loin de ça. Ce qui se passe, c'est qu'on utilise simplement des méthodes statistiques, tu vois, pour diminuer, si tu veux, une erreur de prédiction. Donc, pour revenir à ce que tu disais, le profil, c'est juste une modélisation qui se limite en griffe à un parallélisme. C'est qu'on prend une unité de calcul et puis on l'appelle neurone. Mais on ne simule pas vraiment toute l'intelligence humaine. On utilise des stats pour réduire l'erreur d'apprentissage. En gros, c'est ça. C'est surtout ça qu'on fait. On va pas plus loin que ça aujourd'hui.
Franchement, je suis soulagé. Tu viens de me soulager. Merci beaucoup. Je vais peut-être rebondir en même temps pour demander à l'exemple de... L'exemple que Landry vient de prendre, c'était l'exemple de la Jordan. Mais est-ce que dans notre vie quotidienne aujourd'hui, on a plus d'exemples de l'IA, de l'utilisation de l'IA dans notre vie quotidienne? Est-ce qu'il y a d'autres exemples comme ça, peut-être qu'on ne sait pas, mais qui sont des exemples d'utilisation de l'IA et qui sont autour de nous?
Oh, c'est une question un peu difficile, mais allons-y. Déjà, lorsqu'on se réveille, certains ont des smartphones qui se déverrouillent avec leur visage. Ça, c'est de l'IA. C'est de la reconnaissance faciale. Une fois qu'ils sont debout, qu'ils ont déverrouillé leur smartphone, une des premières choses qu'ils font, c'est écouter la musique. Et en général, les playlists sont des recommandations sur mesure dans votre application de musique. Ça aussi, c'est de l'IA. Le fait d'écouter une vidéo sur YouTube dans une langue étrangère avec un sous-titrage dans une langue que nous, on comprend, c'est aussi de l'IA parce que ça fait du speech-to-text. Donc, ça reconnaît la voix et ça la transcrit en texte et ça fait de la traduction. Lorsqu'on sort, par exemple, nos appareils photos, pour prendre une photo de groupe, on voit généralement des petits carrés autour des visages. Et ces carrés-là font que il y a un meilleur éclairage, il y a tout un ajustement même de l'image pour donner un meilleur résultat. C'est vraiment ça la dimension IA, c'est que ça essaie de reproduire un comportement intelligent. C'est-à-dire, je vois des visages, je me dis, bon, il faut que mes pixels ou mes, il faut que ma trame tourne autour de ces visages. Je vois des sourires, mais je prends une photo plus claire, je mets en évidence ces sourires-là. Donc, c'est toutes ces petites tâches-là qui font l'IA derrière, si je peux m'exprimer ainsi.
Ouais, c'est très clair.
C'est clair.
Et il y a les assistants virtuels aussi, hein. Dès que tu dis, je sais pas moi, Siri, Alexa, joue-moi ceci, joue-moi cela, c'est de l'IA qui est derrière, inévitablement.
Et ça, c'est une combinaison de machine learning et de deep learning, ou bien c'est un exemple spécifique de deep learning seulement.
Oh, ça peut être une combinaison des deux. Ça peut être une combinaison des deux. Aujourd'hui, je te dirais que c'est plus une combinaison de deep learning. Si vous voulez, le deep learning, est venu comme une évolution du machine learning avec l'avènement du big data et ça a permis d'ingérer plusieurs données de façon vraiment à très grande échelle et d'enrichir même les modèles. Voilà.
C'est vraiment clair. On a une idée assez claire de l'IA, de ses différentes parties, de l'avancée. Du progrès, parce que voilà, l'IA a commencé avec des algorithmes, ensuite il y a eu machine learning, ensuite il y a eu une évolution. Je pense que la dernière évolution, c'est le deep learning, si j'ai bien compris.
Exactement,
Donc,
exactement.
ce que. Bon, la question qui me revient toujours quand je parle de l'intelligence artificielle, c'est le volet de l'éthique. Parce
Oui.
que j'ai eu à regarder certains films sur l'intelligence artificielle, l'exemple de Ex Machina, où
Ouais.
au finish, ça causait des problèmes à la fin.
C'est
Donc,
ça.
quel est l'enjeu que nous devons prendre en compte? Quel est l'enjeu de l'éthique dans l'IA? En étant un expert IA, quelle est la place de l'éthique dans tes différentes pratiques?
Wow. Bonne question. Bonne question. Déjà, IA et éthique. Dans la conception générale, c'est une combinaison qui ne marche pas nécessairement parce que l'IA, on la voit beaucoup plus comme du profit, comme du contrôle au détriment de l'éthique. Alors que la réalité du problème de l'éthique se trouve dans deux mots, à mon avis, c'est les biais algorithmiques. Donc, qu'est-ce qu'on entend par biais algorithmique? C'est toutes les anomalies qui peuvent résulter d'un algorithme de machine learning ou de deep learning. Par exemple, il y a une chercheuse ghanéenne qui s'appelle Joy Boulamouini, c'est ça, qui a mis en évidence en 2018 les difficultés de certains algos de reconnaissance faciale à reconnaître des personnes noires. Voilà. Avant elle, il y a eu aussi une chercheuse érythréenne, Timnit, qui a travaillé à Google, en tout cas Timnit Gebru, qui s'est penché sur les questions de représentation du genre et des races aussi. Et les conséquences des biais algorithmiques, comme tu le dis, avant même d'envisager le scénario catastrophe où le robot élimine toute l'espèce humaine, les conséquences sont assez fâcheuses, hein. Tu as beaucoup de pertes d'opportunités. C'est-à-dire que tu as des algorithmes qui vont discriminer l'employabilité, vont discriminer l'accès au crédit, les offres d'assurance sur la base de la race ou du genre. Donc, tu vois que c'est quand même chaud comme résultat, comme anomalie. Et donc, pour ça, aujourd'hui, on a ce qu'on appelle le XAI, c'est Explainable AI. Donc, les gens essaient de mettre en place plusieurs mécanismes pour rendre l'IA responsable pour ajouter un volet éthique à l'IA. Par exemple, le département de la Défense aux États-Unis recommande, hein, cinq fondements pour une utilisation de l'IA. Donc la responsabilité, l'équité, on a parlé de genre et race, la traçabilité, donc à quel moment mon algorithme a fait telle ou telle prédiction, la fiabilité et le contrôle. Et c'est là que peut-être je vais rebondir sur ta question, c'est que il ne faudrait pas que les algorithmes d'IA perdent ou dépassent cette limite de contrôle. Il ne faudrait pas que nous ayons une perte de contrôle face aux algorithmes d'IA. Donc, pour revenir à moi, dans mon travail, l'idée, c'est vraiment d'avoir le plus de transparence possible. Je pense que c'est là le combat. Côté IA, de notre côté, c'est d'avoir le plus de transparence sur les données, le plus de transparence sur les facteurs de réussite d'un modèle. Parce que tu peux faire un modèle boîte noire qui marche bien, tu le montres à tes associés, tu le montres à tes actionnaires, mais il faut après que tu sois capable d'expliquer pourquoi ça marche et quels sont les leviers qu'on peut activer pour que ça produise plus. Donc, le vrai combat dans ma pratique, c'est vraiment d'avoir le plus de transparence possible, pour comprendre pourquoi mes données ou mes modèles marchent. Voilà.
Super, super. Moi aussi, je suis d'accord avec toi. Je pense que la transparence, c'est le facteur clé. Parce que je ne crois pas au contrôle. Parce qu'à la base, pour moi, l'intelligence artificielle, c'est beaucoup d'innovation. Oui. Et je pense que le contrôle est un frein à l'innovation. Plus il y a de contrôle, moins c'est comme si tu mettais un oiseau dans une cage, en fait. Moi, je conçois l'innovation comme un oiseau. Donc, l'oiseau n'a pas besoin d'être dans une cage. L'oiseau, il est fait pour voler, pour pouvoir découvrir de nouvelles choses. Donc, je pense que plus nous créons, plus nous travaillons à l'IA, nous devons, dans l'autre sens, être transparents sur ce que nous faisons. De telle sorte que, au moins, en nous positionnant, voilà, tout le monde soit sur la même page.
Tout à fait. C'est un bon point. C'est un bon point. Pour rebondir sur la question d'éthique, il y a ce qu'on appelle les deepfakes, qui sont autre représentant du genre deep learning. Donc, pour faire simple, c'est je prends la voix de Fadé et j'arrive à lui faire lire un discours de haine.
Avec son visage aussi.
Avec son visage aussi. Oui. Donc, j'arrive à monter une vidéo où Fadé parle comme un terroriste et menace le gouvernement ivoirien. Ça, c'est les deepfakes. Voilà. Donc, ça, qu'est-ce que ça... C'est vraiment un danger. C'est vraiment un danger. Imaginez comment on peut authentifier que c'est Franck ou pas. Comment est-ce qu'on peut faire porter une responsabilité. Donc, c'est de telles dérives qui sont pas loin de nous. Voilà.
Et là ça, me donne plusieurs idées. Ça veut dire que maintenant, même... même en justice, on aura besoin d'experts en IA, parce que si on a des preuves vidéo ou bien des preuves filmées, comment démontrer, comment s'assurer que c'est pas un deepfake? Donc maintenant, je pense que les avocats, les juges et autres ont besoin de personnes autour d'elles. Ce genre de personnes ont besoin de personnes qui comprennent au moins comment ça se passe, qui peuvent distinguer de la preuve réelle du deepfake. Oui. Parce qu'on peut accuser des personnes comme ça. Moi, je peux faire du deepfake sur Franck et puis, venir l'accuser. Si le juge croit mordicus que c'est Franck, Franck n'a pas de moyen de se défendre parce qu'il va dire, c'est pas moi, mais quand il prouve que c'est pas lui, on a la vidéo qui a un élément matériel. Donc, tu vois, ça, ce sont aussi les différents, tu peux dire, les mauvais côtés de l'IA.
Ah ouais, parce que là, je commence à me sentir menacé et je me demande finalement quels sont les moyens pour y arriver. Parce que je pense que j'ai déjà vu quelque part qu'il y a aujourd'hui des applications, même des applications sur ordinateur, bien sûr laptop, qui permettent à des personnes de faire ça. C'est-à-dire, je crois qu'ils prennent peut-être 2-3 photos de l'individu et peuvent créer une vidéo avec. Et du coup, mon inquiétude, c'est finalement l'IA. Pour pouvoir faire de l'IA, quels sont les outils qu'on utilise? Parce que si, en plus du fait qu'on ne peut pas vraiment bien contrôler cette technologie-là, si en plus de ce fait, elle est accessible vraiment à tous, ça peut créer beaucoup de dégâts, en fait. Donc aujourd'hui, pour faire de l'IA, qu'est-ce qu'il faut? Est-ce que c'est cadré? Est-ce que c'est encadré par un cadre légal ou bien... Est-ce qu'il faut de super machines, super puissantes? ou bien n'importe qui peut faire de l'IA pourvu qu'il sache où aller se rendre sur Internet.
Oh, wow. Mais la question est posée, elle est ouverte, et je dirais, a priori, ta dernière intervention, aujourd'hui, vu que l'information est accessible un peu partout, les codes sont open source, il est possible d'utiliser de l'IA, il est possible d'avoir des résultats. Voilà, on va dire ça comme ça, d'avoir des résultats. D'IA, rappelez-vous, je vous ai donné une définition de l'IA comme un programme intelligent. Donc aujourd'hui, quelqu'un peut se lever et puis décider d'imiter la voix du président ou d'imiter la voix de X ou Y. Et ça, c'est une des prouesses techniques du deep learning, c'est que on a la possibilité d'adapter, de réutiliser certains modèles qui ont été développés pour des tâches spécifiques. Donc, je prends un modèle qui a étudié 100 000 langues et puis je le réadapte pour qu'il parle français ou pour qu'il parle baoulé. Donc ça, c'est des choses que aujourd'hui le deep learning permet. Donc n'importe qui, à condition qu'il soit bien renseigné, bien outillé, peut tomber sur cette information-là. Et comme tu le disais, il faut à un moment un cadre peut-être légal sur ce que l'IA doit faire. Non, oui, doit faire ou ne pas faire. Mais après, ça revient à la question du contrôle, comme le disait Lambré.
Ouais. Ouais, ça c'est... D'accord. Effectivement, il y a une question là-dessus parce que... en fait, arrivé un moment, on a l'impression, en tout cas, que la technologie en griffe est neutre et que ça dépend maintenant de celui qui l'utilise.
Voilà, exactement.
Ça dépend de l'usage. Si celui qui l'utilise n'est pas de bonne moralité ou bien n'a pas de bonnes intentions, il peut vraiment créer d'énormes dégâts. D'accord, mais là, essayons un peu de revenir à notre contexte ivoirien et africain. Oui. Quels sont les aspects socio-économiques de l'intelligence artificielle?
On assiste, si vous voulez, à une évolution ou à une transformation des métiers et des secteurs d'activité. Mmh. Aujourd'hui, on est dans une ère de transition numérique. On entend beaucoup parler de transformation digitale, de programme digital. Parce qu'on bascule au numérique. Et l'IA s'introduit petit à petit comme un standard dans tous les secteurs. Donc aujourd'hui, c'est un peu à la mode, si vous voulez, de parler d'IA, de son application, de parler d'IA, de dire « Oh, ma boîte fait de l'IA ». Donc aujourd'hui, on est encore à ce stade-là où l'IA est comme un standard à atteindre. Et... comment on se positionne justement là-dessus, c'est qu'il va falloir faire un choix. Soit on s'adapte, ou soit on subit. Il faut que les métiers soient transformés, la façon de penser soit transformée, la culture puisse transitionner vers de la valorisation des données. Comment est-ce qu'on valorise nos données? Est-ce qu'on arrive à les stocker? Est-ce qu'on arrive à faire parler nos données. Voilà, c'est ça les aspects vraiment socio-économiques de l'IA, parce que l'IA se situe un peu en bout de chaîne. L'IA vient après une transition numérique. L'IA vient lorsque tu as beaucoup de données. L'IA vient lorsque tu as une idée de ce que tu veux en faire. On vient d'en parler tout de suite. L'IA vient propulser ce que tu veux faire en te donnant des moyens rapides, des moyens spectaculaires pour atteindre tes objectifs. Donc, c'est un peu ce point-là que je voulais dire sur ce sujet.
Et toujours pour rester dans le contexte local, le contexte de la Côte d'Ivoire, est-ce qu'aujourd'hui, nous avons plusieurs entreprises qui utilisent l'IA? Est-ce que nous avons des profils aussi locaux qui... C'est vrai que tu en as un exemple, mais est-ce que on a là, est-ce qu'on a vraiment les ressources humaines pour intervenir dans ce domaine? Et est-ce que les entreprises utilisent ça réellement aujourd'hui en Côte d'Ivoire? Et si elles l'utilisent, est-ce que par derrière cela leur permet d'accroître aussi leur chiffre d'affaires et d'atteindre nos objectifs stratégiques aujourd'hui en Côte d'Ivoire?
Ah, comment se porte la filière AI en Côte d'Ivoire?
C'est
Donc,
ça.
ta question est pertinente. Et la vraie question aussi qui se ramène derrière, c'est est-ce qu'on est AI ready? Est-ce qu'on est prêt pour l'effet IA? Et comme je te disais, le prérequis, c'est vraiment toute la transition au numérique. Concernant la formation, oui. Il y a une forte appétence pour des profils IA parce que tu as la montée en puissance de tout ce qui est data science. Donc, on a un master en data science à Yamoussoukro qui s'est développé récemment. On a plusieurs personnes en filière de maths, en filière de statistiques qui touchent à de l'IA de façon concrète. Et donc, c'est un peu ce que je peux dire côté formation. Côté entreprise d'utilisation, on est encore au stade où on veut valoriser nos données. On veut faire de l'IA parce qu'on entend parler de l'IA. Donc, on débroussaille encore un petit peu. C'est un greenfield. Il y a beaucoup de choses à faire. Donc, la filière en plein essor.
Mais peut-être pour rebondir encore là-dessus, tout à l'heure quand tu parlais des fraudes, ça m'a fait penser à ce qu'on voit des fois chez les opérateurs de mobile money, ou bien peut-être même au niveau des banques, ou bien dans d'autres cas de figure. Est-ce que aujourd'hui ces systèmes-là peuvent accueillir des programmes, des algos, IA? Pour pouvoir justement les aider, ces entreprises-là, ces secteurs d'activité-là, pour pouvoir les aider à rapidement détecter et puis en ce moment-là, à aussi protéger leurs clients et puis aussi répondre à la promesse qu'ils font à leurs clients lorsque leurs clients leur donnent leur argent ou bien utilisent leur service. Est-ce que ce serait possible de le faire en ce moment?
Oui, je pense que bon, les entreprises ont accumulé assez de données. Peut-être pas clean, mais il y a un potentiel qui est là. On pourrait mettre en place des programmes, si ce n'est pas déjà le cas, hein, parce que je crois qu'on est à ce stade-là où on veut des victoires IA, on veut des success stories IA. Une entreprise veut être capable de dire, moi j'ai détecté des fraudeurs avec mon algorithme d'IA. Après, comme je vous ai dit, la problématique se trouve au niveau des données. Est-ce que les données ont été bien collectées? Est-ce qu'on a eu des cas de fraude qui sont documentés? Mais sinon, je pense qu'on est prêt à tenter au moins l'expérience IA et à voir.
C'est vraiment top, c'est vraiment top.
Je peux par exemple vous donner deux. Je peux vous donner deux use cases. Je sais que dans la recommandation, par exemple, de contenu, il y a des travaux qui se font au niveau de nos opérateurs qui ont des TV. Donc, via le décodeur, il y a une IA qui est capable de dire quels sont les films que vous avez regardés. Donc, c'est pas l'IA qui est capable de dire, c'est déjà la donnée qui retrace quels sont les films que vous avez regardés et une IA qui est capable de vous suggérer des films qui pourraient vous intéresser. Ça, c'est un exemple de suggestion de contenu. Je sais
Oui.
aussi que dans l'agriculture, on arrive aujourd'hui à détecter à partir des images des maladies sur des plants de cacao, notamment avec le Solenshot, si je me rappelle bien. Donc, il y a des compagnies qui effectuent des vols de drones, qui prennent en photo les plants de cacao et l'IA derrière détecte de façon automatique, bien sûr, quels sont les plants malades.
Wow.
L'IA aussi permet de voir la qualité aussi des sols à partir des images, pas les images brutes qu'on connaît, c'est des images
Net.
multispectrales. Voilà. Donc il y a des petites victoires qui sont en place, qui bougent plutôt bien.
Oui, J'aime bien ça. J'aime bien surtout les hommes de l'agriculture. Je pense que sur la place même ivoirienne, il doit avoir une start-up là, qui, je ne me rappelle plus trop bien du nom. Je ne sais pas si c'est si Franck, tu te rappelles Agri, quelque chose.
Oui, Fly Agri.
Fly Agri, exactly. Yeah. Je pense que voilà, il est un peu dans ce domaine-là. Mais j'aime aussi la suggestion, parce que la suggestion, pour ce que je sais, comment ça se passe, c'est que il y a les films que tu regardes, il y a ta base de données des films. Et aussi, il y a plein d'autres personnes aussi qui regardent des films. Donc,
C'est ça.
on essaie de faire un classement pour dire que, OK, dans les données que nous avons, les personnes qui ont regardé ce film-là sont potentiellement capable de regarder ce genre de film. Donc, étant donné que toi, tu as regardé ce film-là, nous aussi, on te le propose parce que eux, après avoir regardé ce film-là, ils sont venus regarder cette liste de films.
Exactement.
C'est vraiment magnifique, quoi. Souvent, tu te dis, mais d'où ça sort? Pourquoi on me propose ça? Mais bon, en quelque sorte, c'est pour nous dire aussi que avec l'avènement d'Internet, nous sommes tous connectés.
C'est ça.
Je pense que voilà, c'est vraiment intéressant cette conversation-là. Mais pour ceux qui nous écoutent, parce que je sais qu'il y a des professionnels, il y a des étudiants qui nous écoutent, tout et tout. Donc, moi, j'aimerais poser une question à Didier. Quel
Oui.
conseil peux-tu leur donner pour ceux qui veulent embrasser ce domaine? Parce que, comme tu l'as dit, c'est vrai que c'est un greenfield. Il y a beaucoup de choses à faire, mais je suis pas sûr que nous ayons la ressource humaine actuellement. Donc, il faut, voilà, tu as notre plateforme pour lancer un appel pour qu'on puisse avoir beaucoup plus d'experts en IA que tu pourras bien entendu coacher. Donc, voilà.
Oh, mais très drôle. Donc, ben pour les aspirants, il y a un mot, une recommandation qui est très simple, c'est vraiment sortir de toute la hype et aller au fond des choses. Donc, c'est vraiment arriver à dépasser ce premier niveau d'IA égale à science-fiction ou IA qui fait des merveilles, mais comprendre, comme Franck a demandé, il a dit, c'est vrai, on s'inspirait du cerveau, mais de façon concrète, comment ça s'est passé? Et là-dessus, j'ai pu lui dire, écoute, ce sont des statistiques. Donc, des personnes qui s'intéressent vraiment à l'IA doivent être capables de disséquer tout le bruit qu'il y a autour, de s'engager aussi pour ce qu'ils aiment. Donc, tu ne fais pas de l'IA juste pour en faire, tu fais de l'IA parce que tu penses que ça peut apporter une solution à un problème que tu as vu ou à une de tes passions. Donc ça, ces deux premiers points-là sont vraiment super importants. C'est sortir de la hype, aller au fond des choses, s'engager pour ce qu'on aime. Et le dernier point qui va faire sourire, c'est ne pas négliger le volet programmation. Faire de l'IA, c'est vrai que tu vas faire des maths, mais pour matérialiser ton IA, il va falloir coder à un moment. Il va falloir que tout ce que tu dis là, tu nous le démontres de façon concrète. Voilà. Donc ça, c'est pour les aspirants. Et pour ceux qui sont déjà dans le domaine, c'est vraiment un retour d'expérience que je peux partager. C'est être result oriented. C'est faire des choses qui marchent, faire des choses imparfaites, faire des choses imparfaites mais qui marchent. Sinon, on va nous prendre pour des charlatans, des gens qui disent, oh, on fait de l'IA, mais il n'y a rien derrière. Et tant qu'on n'a pas de résultat, tant qu'on n'est pas orienté résultat, on ne pourra pas être une force de proposition dans notre société.
Super.
Donc, c'est ce premier point-là, faire des choses qui marchent, même si c'est imparfait. Et être business driven, c'est que il faudrait faire de l'IA qui intéresse les gens. Il faudrait faire de l'IA qui apporte une valeur ajoutée à
Valeur
nos
ajoutée.
entreprises. Voilà. Si tu es dans les télécoms, il faut que tes projets IA puissent apporter quelque chose là-bas. Si tu es dans l'agriculture, si tu es dans l'énergie, c'est faire des choses à valeur ajoutée pour le métier dans lequel tu es. Et peut-être le dernier point qui concerne les deux catégories de personnes, les aspirants et les practitioners, c'est de rester curieux parce que ça va tellement vite. Je pense que c'est Franck qui l'a mentionné. ça, y a des techniques qui sortent chaque jour, chaque mois, chaque année. Et si on n'est pas curieux, on n'est pas passionné, nos capacités ou nos skills peuvent devenir très vite obsolètes.
Voilà.
C'est vraiment très, 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 très clair, très pertinent, très profond ce que tu viens de dire, Didier. Moi, j'avais peut-être deux petites... Bon, une question et demie. Une question,
d'accord,
toute petite question et une autre question plus sérieuse. Déjà, la question... la petite question. Tu sais, quand on était jeune et même maintenant pour certains,
oui,
on jouait aux jeux vidéo, on avait l'habitude de dire « je joue contre l'ordinateur ».
C'est ça.
Didier, vous me dites...
Le début de l'IA.
Voilà, autrement... Autrement d'un doute, s'il te plaît. Est-ce que c'était de l'intelligence artificielle aussi?
Oui, on peut dire que c'était de l'intelligence artificielle parce que, en fait, l'ordinateur en question, il avait les règles. Je te rappelle, j'ai parlé des systèmes experts. Donc, il pouvait, en fonction de ce que tu joues, choisir le meilleur coup. Si tu veux, l'exemple le plus parlant, c'est le jeu d'échecs. La façon dont le jeu d'échecs a évolué dans le temps avec la croissance des capacités de calcul, c'est que l'ordinateur, comme tu dis, calculait les coups en avance, essayait de faire les meilleures combinaisons possibles. Donc oui, c'est de l'IA dans le sens où je réagis en fonction d'un stimuli extérieur. Je cherche à faire quelque chose, je cherche à prendre la décision la plus intelligente possible. Donc oui, l'IA a beaucoup grandi, si tu veux, grâce au jeu, grâce à ce qu'on appelait les agents. C'est qu'on a appris à comment un agent peut réagir dans un environnement. Donc ça a eu des impacts, par exemple, en robotique, où aujourd'hui, tu as des robots qui vont tout seuls en mission sur Mars ou qui... ou même dans nos salons, on a des robots qui apprennent à éviter les obstacles et puis qui te passent l'aspirateur. Donc ça, c'est des petits exemples d'IA qui ne sont pas forcément du machine learning ou du deep learning, qui sont un mix, en fait. C'est vraiment un agent face à un environnement extérieur qui doit apprendre à choisir la meilleure décision possible. Donc oui, ça aussi, ça fait partie de l'IA.
D'accord. Et ma vraie question maintenant, par derrière, c'est de savoir, est-ce qu'il y a des formations solides? Est-ce qu'on a la possibilité de se former vraiment en IA en Côte d'Ivoire, ici, en restant en Côte d'Ivoire? Est-ce qu'il y a des organismes, des écoles qui forment en IA en Côte d'Ivoire?
Merci. Donc, oui. Il y a un master dont j'ai parlé qui est excellent. C'est le master qui est à l'INP. En fait, il faut comprendre que ce master-là est aussi parrainé par une entreprise. Je ne sais pas si on me permet de dire, c'est Orange, Côte d'Ivoire, qui a parrainé. Donc là, on voit, si tu veux, Franck, le Orange a remarqué le besoin de formation et ils ont cherché à avoir ces compétences-là sur le marché local. Et ils ont été proactifs, ils ont mis en place une formation avec des professionnels, avec des profs de stats, avec des spécialistes aussi en big data, des spécialistes aussi en deep learning. Donc oui, il y a une formation de qualité. C'est la principale que je connaisse. Après, sortie d'une école de stats, en général, te donne quelques bases d'IA. Après aussi, je te dirais, il y a une école qui s'appelle l'Edatic aussi, qui a un master en génie logiciel, qui est pas mal, dans laquelle les jeunes diplômés aussi sont formés sur des problématiques d'actualité, sécurité, blockchain, IA. Il y a pas mal de profils là-bas aussi qui s'intéressent à l'IA Et puis, bien sûr, tu as la fac classique hein, au niveau du département de mathématiques. Il y a beaucoup de recherches à ce niveau-là, voilà. En termes de data mining, de traitement du langage aussi, il y a des choses qui se mettent en place à ce niveau-là.
Wow. Ouais, ok. On voit bien que c'est encore un domaine, j'ai envie de dire, qui est relativement à ses débuts parce que il n'y a pas encore une pléthore d'universités, mais d'écoles qui le font. Mais en tout cas, on a quand même des éléments.
Oui. Et c'est bien que tu le dises parce que souvent on se dit, c'est quoi le profil idéal pour faire de l'IA? C'est vrai qu'il faut avoir un bagage mathématique, mais je dirais, c'est un mix de beaucoup de choses. C'est des maths, c'est de l'informatique, c'est des stats, voilà, il y a tout ce mix à avoir. Hein, et je crois que dans l'épisode passé de votre podcast, votre invité mettait l'accent sur les avantages du système LMD qui, en fait, ce que j'ai retenu, c'est que on pouvait se réorienter puisque le système LMD permettait en gros d'uniformiser et puis de faciliter l'échange des filières. Donc, ce point-là est vraiment important. Du moment où quelqu'un aime l'IA, il a une base en maths, j'insiste, ou en informatique, hein, et il peut vraiment commencer à s'intéresser déjà sur le sujet, et puis voir quelles sont les opportunités académiques qui s'offrent à lui. Voilà. Super. Il y a le sky is the limit. Si tu es intéressé, peu importe ton background, ça te prend peut-être un peu plus de temps, mais tu peux y arriver.
Yeah. Le mot clé ici, c'est la passion. Si tu as la passion.
Oui, c'est vraiment la passion. C'est vraiment la passion. Ne pas faire de l'IA juste pour la hype. C'est ce que tu aimes, puis fais-le.
Exactement. Didier, c'est vraiment intéressant. Hein. C'est vraiment intéressant. On n'a même pas vu le temps passer. Nous sommes pratiquement à la fin de notre podcast. Mais j'ai une dernière question à laquelle j'aimerais que tu répondes. Et puis, en plus de ça, tu vas en profiter en même temps pour donner ton mot de fin. Donc, ma dernière question, c'est comment tu vois l'IA en Côte d'Ivoire dans les 10 prochaines années?
Ah, très bonne question. Donnons-moi un horizon de 3 ans. Actuellement, le constat dans les entreprises en Côte d'Ivoire, c'est qu'on fait beaucoup de BI. Okay. Donc, on fait des stats qui décrivent un peu ce qui s'est passé. On dit, bon, voilà comment l'entreprise se comporte, voilà les outils de BI, voilà les outils de visualisation, voici l'état de santé actuel de ton entreprise. Donc, les actionnaires, naturellement, commencent à se poser des questions. Est-ce que on peut prédire mes résultats? Est-ce que je peux prédire tel facteur? Donc, pour répondre à ces questions-là, justement, on va mieux organiser nos données, on va faire appel à des meilleurs profils, on va creuser un peu plus vers l'IA. Et pour moi, d'ici 2 ans, on commencera à avoir des premiers résultats vraiment de l'IA. C'est qu'on aura assez de données pour pouvoir rouler en temps réel et adresser des problématiques métiers de l'IA. Maintenant, dans 5 ans, il y aura plus de diplômés, il y aura plus de personnes compétentes en IA, il y aura plus de résultats aussi. Donc, je vois aussi le cadre législatif qui va se mettre en place, soit par un choix, par une vision, soit par contrainte. Donc, parce que les géants de la technologie commencent déjà à s'installer dans la sous-région. Donc, d'ici 5 ans, pour moi, ils vont commencer à proposer des solutions. Et il faudra un cadre législatif. Il faudra des personnes pour travailler avec elles. Ils ne vont pas toujours venir avec leurs experts. Donc, il y aura ce cadre législatif-là. Et il y aura certainement une émulation, si je peux dire ainsi. Il y aura les géants versus les talents locaux. Donc, est-ce qu'on va utiliser tous les mêmes algorithmes de Google ou de Facebook, ou est-ce qu'il y aura des startups ici qui vont répondre à des problématiques ivoiriennes, faites par des Ivoiriens, pour des Ivoiriens? La question reste posée, mais je pense qu'on risque d'avoir quelque chose dans ce genre-là. Voilà un peu mes projections pour les prochaines années.
Oui,
donc, il y aura le talent qui va monter. Les entreprises vont commencer vraiment à bâtir des use cases, et il y aura aussi le cadre législatif qui va avec, soit par choix, soit parce qu'on nous l'impose.
Oui, mais comme tu l'as dit, hein, les territoires, la Côte d'Ivoire, c'est un greenfield. Donc, je pense que l'écosystème même s'y prête, tout est quasiment à refaire. Donc, je pense que voilà, parce qu'il y a plein de choses que nous voyons peut-être aux États-Unis, au Canada et autres, qui ne sont pas encore implémentées en Côte d'Ivoire, quoi. Donc,
exact.
On peut rapidement rattraper le retard à l'aide de l'IA. Donc.
Oui. Et ça nécessite, je reviens toujours sur la digitalisation, hein. Ça nécessite vraiment une digitalisation forte. Par exemple, tu n'auras pas de scénario à la Amazon. Comment je vais dire ça? Il y a une offre Amazon, si tu veux, un magasin spécial Amazon dans lequel il n'y a pas de caissier. Où dès que tu prends un article, on sait en même temps quel article, on te le facture sur ta carte Amazon et tout. Ça ne peut venir ici que si on a l'écosystème favorable. Je donne un exemple, hein, dans la livraison. Si la livraison se fait via les plateformes digitales, ça c'est déjà un grand pas. Si par exemple, au lieu de te livrer des casiers de boissons avec un cahier que tu dois signer, je te fais authentifier via une plateforme digitale, ça c'est déjà un plus. Et ça nous fait des données pour une IA qui pourra faciliter les choses derrière. Donc la digitalisation est vraiment clé dans l'histoire.
Donc Didier, nous avons été ravis de t'avoir aujourd'hui. C'est vraiment intéressant. Je suppose qu'on va faire peut-être deux ou bien trois autres épisodes avec toi pour aller beaucoup plus en détail sur chaque élément. Mais bon, voilà, nous devons nous arrêter là. Donc, je te laisse la parole pour donner ton mot de fin. Et aussi, merci encore de nous avoir fait ce plaisir-là de venir nous enseigner et partager aussi les bonnes informations par rapport à l'intelligence artificielle à notre auditoire. Donc,
merci Didier.
Je vous en prie. C'est moi qui vous remercie pour l'opportunité. J'espère que j'ai été plutôt clair. C'était l'objectif de ne pas trop embrouiller. Le mot de fin, c'est vraiment deux principes, justement, acquis en IA que j'aimerais partager à nos auditeurs. Le premier, ça s'appelle le No Free Lunch Theorem. C'est en fait une règle qui dit qu'il n'y a rien de gratuit. Il n'y a pas de bâton magique, il n'y a pas de boîte mystère qui résout tous les problèmes. Et appliqué à l'IA, ça dit qu'il n'y a pas une technique d'IA qui surpasse l'autre. Donc, implémenter de l'IA en Côte d'Ivoire, ça va nous prendre de faire des essais, de se tromper et de choisir véritablement. Il n'y aura pas d'avancée sans effort. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est le principe du rasoir d'Occam. En gros, ça dit de garder les choses le plus simples possible. On n'a pas besoin d'un algorithme de deep learning pour des tâches basiques. Faisons les tâches basiques et l'IA viendra ensuite comme un levier pour nous propulser vers la quatrième révolution industrielle, comme on aime le dire. Voilà un peu, en quelques mots, mes dernières pensées.
c'est bien dit.
Ah oui, là, ça fait un peu lugubre, hein, mais bon.
Oui, c'est ça.
Non. C'était ça, ma conclusion. C'est vraiment, il n'y a rien de gratuit, et puis garder toujours les choses les plus simples possibles, des choses qui font du sens. soit pour le business, soit pour nos utilisateurs. Voilà.
Super, super. C'est clair. Merci bien. Merci Franck. Merci Didier pour ton partage. C'était vraiment intéressant. Donc, merci à nos auditeurs aussi qui sont restés avec nous durant tout ce podcast. Et nous souhaitons une très belle soirée. C'était Marc Landry et Franck Fardé pour le podcast Ivoire Talent. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour un épisode aussi palpitant que celui-ci. À bientôt. Bye bye.
À bientôt.
À bientôt.